Ce matin, nous allons partager sur un thème important. Vous allez aimer. Vous savez, depuis le début de cette année, nous parlons de l'année du nouveau commencement. Et lorsque Dieu nous parle de l'année du nouveau commencement, il nous parle aussi d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle compréhension. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un message sur le thème « Entrer dans la dimension supérieure ». Alléluia. Entrer dans la dimension supérieure. Dis à deux personnes à côté de toi, j'entre dans la dimension supérieure. J'entre dans la dimension supérieure. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. Et je sais que c'est un verset que nous aimons beaucoup confesser devant des situations, mais nous ne comprenons pas profondément de quoi il est question. Deutéronome 28, le verset 13. Si vous y êtes, est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture de la parole du Seigneur? Alors, on y va. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Deuxième lecture. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Voyez, cette écriture est très intéressante. Parce que tout ce que nous allons comprendre ce soir est logé dans ce verset. Alléluia. Alors, lorsque nous observons ce texte, il y a une première chose qui revient. Nous comprenons que, nous réalisons dans ce texte que c'est Dieu qui fait de nous une tête et non nous qui faisons de nous une tête. La première chose. Et la deuxième chose qu'il est important de noter dans ce verset, c'est que nous devenons une tête uniquement lorsque nous obéissons au commandement. Alléluia. Lorsque nous obéissons au commandement, nous ne devenons pas une tête lorsque nous marchons hors des commandements. Maintenant, la troisième chose que je voudrais qu'on note, bien aimé, c'est que ces commandements sont prescrits par le Seigneur et non par personne autre chose. Ce n'est pas par ton père, ce n'est pas par ta mère, ce n'est pas par ton président, ce n'est pas par ton pasteur non plus, mais c'est pas le Seigneur. Le Seigneur a prescrit quelque chose. Alléluia. Et donc, il y a une norme pour que nous soyons une tête, pour que nous soyons en haut. Nous ne pouvons pas être une tête, nous ne pouvons pas être une en haut si nous ne respectons pas ces trois éléments. Premier, Dieu. Deuxième, obéissance aux commandements. Troisième, Dieu encore. Dieu au commencement, Dieu à la fin. Alors, bien-aimés, ce matin, nous parlons de la dimension supérieure. De quoi est-il question? Lorsque nous parlons de dimension supérieure, nous parlons d'une accélération des systèmes. Nous parlons d'une accélération des niveaux et des moyens à travers les réalités spirituelles. Je répète. Lorsque nous parlons ici des dimensions supérieures, nous parlons d'une accélération des systèmes, des niveaux, des moyens à travers les réalités spirituelles, mentales et physiques. Alléluia. Et cette dimension supérieure évoque ici des niveaux et des hauteurs plus élevés. Des niveaux et des hauteurs plus élevés. La dimension supérieure, bien aimé, s'exprime dans la longueur, la largeur, le poids, la hauteur et la profondeur des actions. Et c'est la raison pour laquelle la légèreté n'est jamais acceptée dans le processus d'accession à la dimension supérieure. C'est la raison pour laquelle l'indiscipline n'est pas acceptée dans l'accession à la dimension supérieure. Vous voyez, d'un point de vue scripturaire, lorsque Dieu a dit je ferai de toi la tête et non la queue. Il parlait en fait de l'élévation des hommes vers une dimension supérieure. Une nouvelle dimension, bien aimé, ne commence pas forcément avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine, une nouvelle compréhension de Dieu. Pierre a pu marcher sur les eaux comme le Seigneur Jésus parce qu'il avait reçu une révélation du Seigneur. Tu peux ne pas encore marcher sur les eaux jusque-là. Tu t'es toujours enfoncé et noyé à toutes les tentatives. Mais le temps fixé par Dieu s'annonce où tu ne seras plus noyé. Alléluia. Tu marcheras sur les eaux comme un élément surnaturel. Chacun d'entre nous devrait comprendre que le plus important, ce n'est pas le fait d'entrer dans une nouvelle année. Mais la nouvelle année doit nous amener à entrer dans une nouvelle dimension, qualifiée meilleure et supérieure de notre existence. Alléluia. Voyez, aujourd'hui, nous réduisons la dimension supérieure au mariage, au fruit des entrailles, au voyage, à la promotion professionnelle, à la promotion financière. Nous réduisons cela. Être la tête, nous réduisons cela au fait que nos ennemis meurent. Alléluia. Au fait que ceux qui te combattaient soient mis au cachot de la honte. Et là, tu dis, vous voyez, je suis la tête, je suis en haut. Non. Et lorsque nous nous tenons dans nos lieux de prière, nous convoquons ces versets et nous disons, je suis la tête et non la queue. Et les choses ne marchent pas parce que nous ne comprenons pas que ces choses ne marchent que lorsqu'il y a une nouvelle révélation. Alléluia. Et bien aimé. Et cela doit nous introduire à comprendre qui est Dieu et comment travaille-t-il. Dieu ne travaille pas hors de ses principes. Dieu ne travaille pas hors de ses commandements. Vous voyez? C'est pourquoi je prends juste un exemple de la parole de Dieu où le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, vous voyez ici que l'amour, selon Dieu, n'est pas une émotion. L'amour, selon Dieu, n'est pas un sentiment. L'amour, selon Dieu, est un ordre. L'amour, selon Dieu, est une obéissance à une instruction. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez voir encore cet autre verset où c'était un m'a dit, quand on combat, on est dans le combat spirituel, on dit, tout ennemi de nos vies tombe et meurt au nom de Jésus. Il dit, non, la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu, aimez vos ennemis. Mais suivez le verset. Ce type d'amour-là provoque sur nos ennemis des charbons ardents. Est-ce l'amour? C'est la guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Aimez vos ennemis. Dieu dit aimer. Alors, est-ce que je peux aller plus loin? Et donc, vous comprenez dans ce verset que lorsque Dieu dit aimer, c'est une autre stratégie de guerre. C'est une autre stratégie de guerre. En fait, Dieu veut que tu focalises ton esprit sur lui de manière à ce que l'ennemi n'ait aucun droit légal pour contester et bloquer l'attaque qui va arriver contre lui. Parfois, Dieu vient juger un problème. Il trouve que tu as la haine dans le cœur. Il trouve que tu as la rancune dans le cœur. Il trouve que tu as plein d'animosité dans le cœur. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Alors, entrer dans une nouvelle dimension implique la connaissance parfaite de Dieu, de la manière dont il travaille et de ses saisons. Alléluia. Implique la connaissance parfaite de Dieu, de la manière dont il travaille et de ses saisons. Dieu travaille avec les saisons et le temps, mais pas forcément avec notre calendrier. Il travaille avec son temps fixé, avec sa saison dans la vie d'une personne. C'est un temps où il apporte un changement, où il intervient dans notre vie. Mais bien aimé, nous l'avons beaucoup parlé ces derniers temps dans le livre d'Habacouc chapitre 2. Il nous a clairement dit là que c'est une prophétie qui arrive à son terme. Mais il dit, si elle tarde, attends-la, attends-la. Il répète, attends-la. Pour vous dire que même dans l'accomplissement de la prophétie, Dieu a prévu un temps de retard. Qui n'a rien à voir avec le fait que Dieu n'est pas prêt. Qui n'a rien à voir avec le fait que Dieu était surpris par la situation. Mais qui est là pour accroître le niveau de notre foi et de notre patience en lui. Ah, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Ton amen me fatigue. Alléluia. Eh bien aimé, ainsi c'est Dieu qui fait monter les hommes vers les dimensions supérieures, à la fréquence de l'attachement à ses commandements. Plus tu t'attaches aux commandements de Dieu, plus tu montes avec Dieu. Alléluia. Un dimanche, un jour, je regardais un culte de papa à Deboye de Redeem Church et il est arrivé en retard le jour-là à l'église. Et quand il est monté à l'hôtel, il s'est excusé. Il a dit, ah, excusez-moi, j'ai accusé un petit retard. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai accusé le retard? Les gens écoutaient, dit, c'est que Abraham est venu, on prenait un café. Je prenais le café avec Abraham. C'est ça qui a fait que je sois arrivé un peu en retard. Tu prends le café avec Abraham? Les dimensions supérieures. Alléluia. Un jour, papa Sadou dit qu'un jour, il lisait le livre de 1 Samuel, un roi. Et pendant qu'il lisait le livre de 1 roi, il arrive au chapitre 17. Quand il arrive au chapitre 17, il sent quelqu'un entrer dans la chambre de prière. Il tourne la tête. Il entend la personne lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, ah, comment vais-je comprendre? Il dit, laisse-moi t'expliquer, je suis Élie. Il dit, c'est moi qui suis à l'origine de ce livre. Assois-toi, je vais t'expliquer. Tu vois cette partie, je suis comme ça, je suis allé comme ça. Dieu m'a dit de faire comme ça, Dieu m'a dit de faire comme ça. Ça, ce sont les dimensions supérieures. Alléluia! Quelle est la révélation avec laquelle tu as abordé cette année? Si tu n'as pas une révélation importante, forte, liée à la connaissance de Dieu pour cette année, la frustration et la confusion seront ton partage. L'inquiétude va te paralyser. La peur va te paralyser. Si tu rentres dans cette année avec la parole de ton pasteur, tu ne t'en sortiras pas. Seigneur, papa a dit que, il a dit que, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ce qu'il a dit doit confirmer ce que Dieu t'a dit. Alors, si Dieu ne t'a rien dit, tu auras un problème. Tu auras un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez? C'est Dieu qui fait monter. Lorsque nous regardons, il dit, Dieu, l'Éternel fera de toi. Ce n'est pas toi qui fais de toi. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui font des autres. Qui font des autres. L'autre jour, j'étais à Yaoundé pour le synode des pasteurs. Et on revenait, il y a un apôtre avec lequel j'étais dans le bus. Et il m'a raconté. Il me dit, homme de Dieu, je suis allé visiter un pasteur qui me dit, on l'a consacré apôtre. J'ai dit, mais comment, sur quelle base, pas seulement théologique, mais du point de vue révélationnel, as-tu été ordonné apôtre? Il a dit que non, l'apôtre qui est venu me oindre, il m'a simplement dit que je dois être apôtre parce que comme j'ai 3 femmes, je dois augmenter mon niveau spirituel. Alléluia. Il lui a dit que, broda, je ne t'appelle même plus pasteur, broda, pardon, tu dois te repentir. Alléluia. Eh bien aimé, nous vivons un temps où les hommes cherchent des titres. Eux-mêmes deviennent la tête. Ils veulent être des apôtres.
Ils veulent être des prophètes. Ils veulent être... Vous voyez, aujourd'hui, il y a une tendance nouvelle. Une tendance qui veut qu'il n'y a que deux ministères maintenant qui soient en vue. Tout le monde veut ça. Apôtre et prophète. Alléluia. Lorsque nous étions à Yaoundé, quelqu'un a dit, toi tu es apôtre, quelles sont les preuves de ton apostolat? On te chasse de maison en maison, tu es apôtre. Alléluia. Mes bien-aimés, ma question ce matin, qui a fait de toi une tête? Qui a fait de toi une tête? Ah, moi, je suis la tête. Ah. Quand tu confesses ça, es-tu sûr que Dieu est en harmonie avec toi? Ou tu ne fais que l'obéissance à une tradition scripturaire? Alléluia. Alléluia. Voyez? La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. Dis à ton voisin, lorsque tu obéiras. Bien-aimé, si cette année, tu n'obéis pas, tu ne pourras pas être une tête. Prends la Bible, mange-la. Ça ne marchera pas. J'ai aimé. Un apôtre nous a prêché, nous a donné un message de circonstances l'autre jour à Yaoundé. C'était tellement beau. Vous savez, il y a des messages qu'on ne peut pas enregistrer. C'est comme si Dieu vous parle. Du coup, tous vos téléphones sont paralysés. Et il a dit quelque chose. Il a dit, est-ce que nous faisons nos églises ou est-ce que nous faisons l'église? Est-ce que c'est l'église que nous bâtissons ou est-ce que c'est nos églises que nous bâtissons? Nous devons nous poser la question parce que le plan de Dieu n'a jamais changé. Ça a toujours été le même. Dieu qui est grand, Dieu qui est très haut. Et c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que Melchisédek va saluer Abraham. Il dit, Abraham, je te salue au nom du Dieu très haut. Abraham ne savait pas qu'il y avait un Dieu très haut. Et à ce moment-là, Dieu qui est très haut va vouloir faire un homme à son image et à sa ressemblance pour que lui aussi soit haut. Mais il va le mettre dans une autre dimension. Il va dire, moi je suis ici, toi tu es ici. Tu gouvernes ici, je gouverne ici. Mais tu prends tous tes ordres de moi. Et Satan va venir dire, non, tu sais, tu peux être toi-même grand. Tu peux être toi-même grand. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de l'indépendance. Vous voyez? Tu as besoin d'être indépendant. Déconnecte-toi de cet homme, de ce Dieu-là. Sois indépendant. Sois toi-même Dieu. Mange de ce fruit. Et ce jour-là, l'homme va décroître de la position que Dieu avait pour lui. Et Dieu n'a de cesse de chercher comment ramener l'homme à la position qu'il avait prévue pour lui au départ. C'est pourquoi Jésus est revenu. Jésus est venu mourir à la croix pour nous redonner de retrouver notre position. Dans Luc 10, 19, il dit que quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir avait été perdu. Alléluia! Ce pouvoir avait été perdu dans le jardin. Lorsque Jésus revient d'entre les morts et qu'il vient visiter ses enfants dans la maison, Thomas n'était pas là, Didyme, le jumeau. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, il revient à ce que Dieu a dit au commencement dans Genèse chapitre 1, 26. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Multipliez-vous, assujettissez la terre. Alléluia. Mes bien-aimés. Alors vous devez comprendre que derrière toute élévation divine se cachent des clés et des principes divins. Des clés et des principes divins. Aucun homme que vous voyez dans les Écritures qui a été élevé par Dieu n'a été élevé au hasard. Dieu a retrouvé en lui des clés et des principes. Et parmi tous ces principes, le principe de l'obéissance. Le principe de l'obéissance. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont encore calés sur l'escalier de l'obéissance. Ils n'arrivent pas à dépasser l'escalier de l'obéissance. Parce que l'obéissance est un sacrifice. L'obéissance est un sacrifice. Le prophète Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance est déjà un sacrifice. Bien-aimé, tu ne peux pas obéir à quelqu'un si tu n'es pas sacrifié à cette personne. Alléluia. Tu ne peux pas m'obéir si tu n'es pas sacrifié à ce que je dis. Si tu as encore en toi l'esprit pentecôtiste, tu vas dire, ah non, vraiment, j'attends que Dieu aussi me confirme. Vraiment, j'ai besoin, Seigneur, si tu as parlé, confirme-moi. Et bien aimé, nous vivons un temps où les hommes ne veulent plus être obéissants. Et Paul l'a dit, dans les derniers temps, les hommes seront rebelles. En d'autres termes, ils auront un problème avec l'obéissance. Or, l'obéissance introduit dans nos vies la deuxième clé qui est l'humilité. Plus tu es obéissant, plus tu es brisé de l'intérieur et plus l'obéissant devient ton caractère. L'humilité devient ton caractère. Alléluia. Bien aimé. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Aux humbles. On n'est pas humble en le proclamant. Moi, je suis humble. Je suis quelqu'un de très humble dans ma vie. Tu es même très orgueilleux. On a l'habitude de dire dans nos langages qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Alléluia. Ce n'est pas tes paroles qui disent que tu es humble. Ce sont tes actions qui disent que tu es humble. Ce sont tes actions. Et c'est même les autres qui disent que tu es humble. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Un jour, je le posais au docteur, le docteur papa César Bezamaouta. Et je lui disais, mais papa, tu es d'une humilité. Et le jour-là, on était là, on était assis. Et il a pris son bras, il m'a enlacé sur l'épaule. Il dit, mais papa, comment tu fais pour être aussi humble? Il dit, je ne sais même pas que je suis humble, je continue à travailler. Que je travaille chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ce jour-là, il a ajouté une parole, il a dit, tu sais, mon standard n'est pas un homme. Je ne traite pas mon humilité pour être comme tel homme. Je traite mon humilité pour être comme Jésus. Et il m'a dit, j'étais un homme orgueilleux. Orgueilleux parce que j'avais la connaissance. J'étais docteur biologie. L'un des premiers doctorants en Russie de l'époque. J'ai fait ma thèse en France. J'étais rempli de connaissances. Il dit, un jour j'ai donné ma vie à Jésus. Mais j'étais rempli d'orgueil de ma connaissance. Lié à ma connaissance. Il dit, un jour, pendant qu'il priait, un jour, Dieu lui a dit, veux-tu me servir, mon serviteur? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, prends ton doctorat, mets ça au bas du lit et oublie. Et Dieu lui a montré un livre. Il allait acheter ce livre. L'humilité, la beauté de la sainteté. Il dit, j'ai lu ce livre, je me suis repenti du début jusqu'à la fin. Parce que ça m'a brisé. Alléluia! Et c'est comme ça qu'il a tout abandonné. La carrière de doctorant qu'il avait en France. Tout! Dieu lui a dit, va au Cameroun. Il a tout abandonné. Il est venu vivre au Cameroun. Pendant près de 30 ans, il est resté ici au Cameroun. 30 ans. Il a travaillé ici. Il a épousé une de nos sœurs de la région Bassa là-bas, qu'il a rencontrée aussi en France. Et Dieu lui a dit, va dans sa nation et délivre son pays. Et cet homme a été un des précurseurs du mouvement prophétique dans ce pays. Alléluia. Il était un des précurseurs. Si on parle aujourd'hui des prophètes, c'est cet homme-là qui a apporté cette histoire avec l'école des prophètes. C'est à cette école que moi-même j'y étais. Alléluia. Alléluia. Mais s'il n'avait pas cette révélation, il ne devait pas avoir cette dimension. L'obéissance. L'humilité. L'humilité. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit, l'arrogance précède la chute. Et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil. Alléluia. Dans les cas, tu es soit ruiné, soit chute. C'est magnifique. Bien-aimé, écoutez, Dieu est le créateur des hommes. Tandis que les hommes sont les moqueurs des hommes. Grâce à sa puissante création, Dieu peut catapulter n'importe qui dans ses dimensions supérieures, indépendamment des limites et des oppositions, afin d'éradiquer les moqueries des hommes. Dieu, lorsqu'il veut élever un homme, ne consulte pas son background familial. Juste chapitre 6, quand Dieu décide d'élever Gédéon, Gédéon consulte sa famille. Gédéon consulte ses fondations. Dieu dit, vaillant héros. Vaillant héros. C'est ce que je te connais. Toi, tu es vaillant héros. Ah non, 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 laisse vaillant héros. Tu sais d'où je sors? Ma famille est la plus petite. Et au milieu de ma famille, je suis le plus petit. Dieu dit, vaillant héros. Et c'est ça notre problème. Une tête, si tu fais ce que Dieu t'a dit. Jour, Dieu dit, tu, je veux faire de toi quelqu'un de grand. Comment ça? Pardon, il faut dire au moins comment il veut faire pour manger tout à l'heure. J'ai faim. Hein? Tu me racontes un truc très très loin. Et c'est ça le problème des Aïus. Alléluia. Il a regardé au potage de maintenant, mais il n'a pas regardé au futur. Jacob a regardé au futur. Et il a compris que les clés du futur étaient liées au droit d'aînesse. Et Esaïe a dit, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse alors que je vais mourir? Alors que j'ai faim, donne-moi à manger, prends cette histoire. Et aujourd'hui, nous faisons les mêmes choses devant le manque. Devant la difficulté, on vend la grâce de Dieu dans nos vies. Pour manger aujourd'hui, demain tu fais comment? Alors que Dieu t'a appelé à être la tête. Alors que Dieu t'a appelé à être la tête. Je veux vous dire quelque chose. Vous savez, Joseph ne croyait pas à ces choses-là. Joseph ne croyait pas. Joseph a eu deux songes. Genèse chapitre 37, il a partagé à ses frères, à ses parents. Personne n'a été d'accord avec lui. Même pas son père qui était prophète. Bien qu'il ait interprété. Mais ça l'a créé plus de problèmes que de... On se serait attendu qu'on dit, waouh, Dieu lui-même a confirmé deux fois. Viens ici. C'est pourquoi même quand Dieu te oint de quelque chose ici ou dans l'église, la première chose, c'est qu'on te teste. Alléluia. Oh, pourquoi papa se comporte comme ça? Parce que demain, tu vas rencontrer des situations plus compliquées que ça. Il faut te préparer. Parce que ce n'est pas facile. Allez demander à Moïse comment diriger 3 millions de personnes était compliqué dans sa vie. Et la Bible dit que Joseph est parti en Égypte. On l'a vendu. On l'a vendu. C'est ça, n'est-ce pas? On l'a vendu. Pensez-vous qu'il se rappelait encore de la révélation?
Il a certainement dit comme toi et moi, « Ah, ça ne vaut plus la peine. L'histoire-là, c'était un mauvais rêve. » C'était un mauvais rêve. Mais il ne savait pas que Dieu a pour habitude de nous montrer la fin d'un voyage et non le voyage lui-même. Si tu demandes le voyage, tu ne vas jamais prendre ton sac. Jamais. Jamais. Tu vas préférer rester là où tu es. Et Dieu l'avait montré la fin du voyage. Mais pendant 22 ans, 22 ans, cet homme est allé par toutes sortes de tribulations. Et le jour où on l'a mis, il est devenu grand en Égypte. Je suis sûr que cette nuit-là, il s'est repenti devant Dieu. Il a dit, oh Dieu, je te demande pardon. J'ai douté. La vie ne nous donne pas cette... Parce que Joseph était comme nous. Et nous, on fait la même chose. Je vous ai raconté un de nos frères ici, le frère Alex, le jour qu'il partait pour le Canada, il est venu ici dans mon bureau demander pardon. Il est venu, papa, j'ai demandé pardon. Il dit, pourquoi? Il dit, chaque fois que tu disais quelque chose sur moi, je rendais à mon problème. C'est quoi ça? Il n'a qu'à me voir dans un travail. Et un jour, il est venu. Il met sa femme. Papa, j'ai un problème. J'ai dit lequel? Il dit, chaque fois que je postule, c'est elle. Alléluia. C'est elle qui m'embauche. Il dit que frère, déjà trois fois, c'est un enseignement. Hein. Il faut décroître. Alléluia. Il faut décroître. C'est sa femme qui négocie pour qu'on le recrute. Et sa femme a un meilleur poste que le sien. Or, sa femme n'a pas l'ancienneté professionnelle qu'il a. Et il dit, ah, Dieu veut que cette saison, si ce soit ta femme qui pourvoit la maison. Il dit, comment? Et un jour, Dieu m'a donné une pichenette pour lui faire comprendre qu'il doit regarder au Seigneur. Dieu m'a dit, demande-lui quel est le nom que sa femme parle pour qu'on recrute. Et j'ai dit, quel est le nom avec lequel on recrute ta femme? Il dit, c'est mon nom. Je dis, mais c'est toi qui travailles, non? Alléluia! Alléluia! C'est toi qui travailles, non? Vous êtes une seule chair, c'est pas ça? Il dit, c'est ça. Il dit, rentre à la maison. Aujourd'hui, Dieu, vous voyez, pendant nos temps de tribulation, ce verset d'être la tête n'est plus d'actualité. On veut survivre. On veut survivre. On veut sortir du feu. On veut sortir de la fournaise. Ça chauffe trop. C'est trop compliqué. C'est trop. Quand que ça va aller, là, ce n'est pas suffisant pour éteindre le feu qui est autour de moi. Ça va aller. Parce que ça va aller. Parce que Dieu ne soumet pas ses enfants à une épreuve au-delà de leur force. C'est écrit. Et à la fin de cela, la Bible dit même qu'il a prévu une solution pour s'en sortir. Alors, si tu es calme, voyez, Dieu est étrange. Devant Samson, Dieu utilise Samson pour tuer un lion. Dieu utilise un lion pour devenir l'oreiller de Daniel. Ah ah. Celui-ci tue. Celui-ci, il ferme la bouche et il dort dessus. Chacun, la manière avec laquelle Dieu travaille. Dieu a ses rouages pour faire de toi une tête. Dieu a ses rouages pour faire de toi une tête. Alléluia. Et Samuel chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. J'aime ce texte, vous voyez?
Dieu ne peut pas te délivrer de la pauvreté sans te sortir de la poussière. Alléluia. La poussière parle de tes origines. La poussière parle de tes fondations. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont liées à la pauvreté de par leurs fondations. Du fumier, il relève l'indigent. Vous savez, le fumier, c'est la nourriture du porc. Alléluia. Et le fumier a de l'odeur, a une mauvaise odeur. C'est ce qu'on vend ici en route. On pose là dans les gros sacs, les gens achètent. La drèche, voilà, c'est du fumier. On utilise même ça au champ pour mettre, pour que les plantes poussent bien. Alléluia, comme l'engrais. Alléluia, c'est du fumier. Quand tu passes à côté, il y a une mauvaise odeur, n'est-ce pas? Alors, l'indigent porte toujours une mauvaise odeur. L'odeur de la honte et de l'humiliation. Et pour que Dieu te fasse sortir, pour te faire asseoir au milieu des grands, il te débarrasse de ces mauvaises odeurs. L'obéissance, l'humilité, les clés importantes. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, fais attention lorsque les hommes te créent. Fais attention lorsque les hommes te bâtissent. Fais attention lorsque les hommes t'élèvent. Car ils vont te briser et se moquer de toi à la première occasion. C'est pourquoi vous devez vous connecter à la puissance de Dieu qui fait s'élever les hommes à des dimensions supérieures. Car lorsque Dieu vous crée, son intention est de vous maintenir au-dessus et non en dessous. Alléluia. Et lorsque Dieu élève un homme, il éloigne des hommes. Dieu n'utilise que ce que les hommes ont rejeté. Tant que les hommes t'apprécient, Dieu s'éloigne de toi. Tu n'es pas encore selon les critères. C'est quoi remarquer? Il faut que tu sois pauvre. Il faut que tu sois indigent. Il faut que tu sois pauvre. Il faut que tu sois indigent. Jésus dit lui-même qu'il est venu pour les pauvres. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Pour ceux qui sont faibles. Pour les indigents. Alléluia. Alors tu ne peux pas expérimenter la dimension supérieure si tu ne regardes pas d'où tu sors. Dieu ne cherche pas les produits finis. Il veut finir les produits. Alléluia. Il veut lui-même finir les produits. Je prophétise dans ta vie. Alors que tu entres dans la saison de ton élévation. Alors que tu entres dans la saison de ton élévation à une dimension supérieure. Que Dieu t'élève et manifeste envers toi sa fidélité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu entres dans cette saison d'élévation, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la connaissance de Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Alors c'est quoi la pauvreté encore une fois de plus? La pauvreté n'est pas le manque d'argent. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de produits essentiels. Écoutez très bien, c'est le manque de produits essentiels qui positionne les hommes pour des dimensions spirituelles, pour des dimensions supérieures. Il y a des choses que tu as besoin pour être positionné. Mais si tu les manques, tu es pauvre. Alléluia. Tu peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas les opportunités d'exprimer ton intelligence, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Alléluia. Tu peux avoir le diplôme de docteur. Mais tant que tu n'exerces pas, ça ne te sert à rien. C'est un document comme toute autre chose. C'est ta pratique qui valide ce diplôme. Alors vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui, dans n'importe quoi, ils font n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Or, Dieu a mis en eux des capacités, mais ils n'ont pas l'opportunité d'exprimer ces capacités. Du coup, ils sont dans la pauvreté. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est juste pour survivre. Hein? Vous vivrez le jour où vous ferez ce que Dieu vous a appelé à faire. La vie est liée au plan de Dieu pour ta vie. La vie. La survie est liée à ton propre plan. La survie. La survie. Alléluia. Alors, bien matériel fait un pauvre sans des biens matériels. Alors, si quelqu'un t'insulte au quartier, pauvre femme, regarde-le vraiment. Le simple fait que tu m'insultes, on sait que tu es la pauvre. Parce que les pauvres vont insulter la qualité ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Une personne riche dans sa tête ne se rabaisse pas pour raconter n'importe quoi. Non. Non. C'est pourquoi je ne m'énerve pas pour devant les. Parce que ça me perd du temps. C'est de l'énergie qu'il gaspille. Alléluia. J'ai besoin de mon énergie pour réfléchir à des choses plus importantes. Alléluia. Quelle que soit la pression autour de ma vie, je garde mon esprit, mon intelligence disponible pour appliquer dans ce que Dieu attend de moi. Alors, quatre choses qui rendent les gens pauvres. Je nous donne rapidement quatre choses. Vous allez voir que beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons à l'intérieur. Quatre choses qui nous rendent pauvres. Le manque d'informations. Oui, le manque d'informations, tout simplement. Votre vie dépend de ce que vous savez et de la manière dont vous appliquez ce que vous savez. Alléluia. Je répète, votre vie dépend de ce que vous savez et de la manière dont vous appliquez ce que vous savez. Alors, tu peux savoir quelque chose, mais tu ne l'appliques pas, tu es pauvre. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait, mais qui l'applique, il est plus riche que toi. Alléluia. Il est plus riche que toi. Vous ne pouvez pas faire du commerce avec l'ignorance et vous attendre à une dimension supérieure. Voyez, Proverbes chapitre 10, le verset 14. Il dit, les hommes sages accumulent les connaissances. Les hommes sages accumulent les connaissances. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter de connaître, d'apprendre. Au lieu de remplir ton cœur de haine et de rancune, remplis ton cœur de connaissances. Ça va te profiter. Pendant que la rancune, la colère, tout ce qui va avec, va te donner les maladies cardiovasculaires. Tu vas donner un peu d'argent au docteur Armel. Alléluia. Il ne va pas dire non. Alléluia. Oui, c'est pour ça qu'ils sont aussi formés. Il doit aussi nourrir, il doit avoir aussi une papote remplie. Alléluia. Donc si tu ne fais pas attention, c'est lui qui va manger la papote. Bon, dans le bon sens, hein. Ce n'est pas comme s'il prie que vous vous sentez mal. Alléluia. Quelle est la prière d'un morgue? Hein? Qui est plus de morts? Ok, avançons. Osée chapitre 4, le verset 6 dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais bien aimé. Et Jésus nous dit, je crois dans Jean 8, 22, que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, c'est la connaissance de la vérité, la connaissance de la situation dans laquelle tu es qui te rend libre. Tant que tu ignores dans quoi tu es prisonnier. Deuxième chose qui rend les gens pauvres, la culture de l'orgueil. Vous voyez, il y a une chose qui m'a toujours marqué, l'orgueil des pauvres. Alléluia. Ça m'a tout choqué. Tu vois, quelqu'un n'a rien. Mais son histoire là est à trois niveaux. Son orgueil est à trois niveaux. Tu dis, mince, comment tu arrives à être orgueilleux dans la pauvreté, frère? L'orgueil du riche a même que... On regarde. Quand le riche dit fainéant, on dit merci, patron. Ok, boss. Alléluia. Dans les temps anciens, on nous raconte que quand le chef du village avait envie de tousser, on ouvrait la paume de la main, il crachait à l'intérieur et les gars, c'était un privilège. C'était un privilège. Il fait encore les hommages. Il présente encore bien les hommages au chef. Lorsque l'orgueil devient une culture, j'ai parlé de culture. Vous savez, quand on parle de culture, derrière ça, il y a le mot culte. Derrière ça, il y a le mot idole. C'est-à-dire, l'orgueil devient une idole. Quelque chose que tu affectionnes. Quand on dit, laisse ça, non, tu dis, c'est comme ça que je suis. Vous devez me prendre comme ça. Ça t'a aidé? Toi-même, ça ne t'a jamais aidé. Chaque jour, c'est les gens qui ont un problème avec moi. Moi, je n'ai pas les problèmes avec les gens. Mais mon frère, 10 personnes qui ne te connaissent pas ne peuvent pas être mandatées uniquement pour tes nuits. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Et tu dois arrêter. Tu dois mettre un stop. Alléluia. Et vous voyez, lorsque l'orgueil devient une culture, votre culture, la pauvreté devient votre structure. La pauvreté devient votre fondation. L'orgueil vous fait rester dans un état de chute dans la vie. Allez consulter Satan. Lui-même, il est tombé. À cause de quoi? L'orgueil. Troisième chose qui rend les gens pauvres. Le transfert de responsabilité. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire en réalité ici? L'habitude de blâmer les autres pour les situations de votre vie est le moyen le plus rapide de rester captif des situations et de s'installer dans la pauvreté. Oh, si je suis comme ça, c'est tel. Oh, si je suis comme ça, c'est tel. Si je suis comme ça, c'est tel. Tu ne te regardes jamais. Tu ne te remets jamais en question. Les autres. Et ça a été un problème majeur que Dieu a eu avec Adam. Quand Dieu a rencontré Adam lorsqu'il a péché, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il va dire la femme. Il a transféré la responsabilité. En d'autres termes, en disant c'est la femme, il était en train de dire, en d'autres termes, Dieu c'est toi. Si tu n'avais pas créé la femme, je ne serais pas dans ce problème. Je dis, Et c'est ça, lorsque nous transférons des responsabilités, nous voulons indexer Dieu en réalité. Nous voulons dire que nous sommes saints et lui, il est juste. L'apôtre Jean dit que nous tous nous trébuchons. Alléluia. Que celui qui dit qu'il est juste, il est déjà dans l'injustice. Alléluia. Bien-aimé, vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Chacun de nous doit se remettre en question. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quand les choses ne vont pas dans le sens que tu espères, remets-toi en question toi-même. J'ai reçu une dame ici l'autre jour. Elle est venue d'Allemagne, elle est venue ici pour la prière. J'ai prié avec elle ici. Et avant que quand j'ai prié pour elle, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, apôtre, tu viens de dire quelque chose, tu viens me donner une révélation qui me touche. Je vais dire un peu quelque chose. Sa maman était là. Elle a dit, je ne veux pas qu'on indexe le côté de mon mari parce que mon côté aussi a des sérieux problèmes. J'ai dit, waouh, ça c'est une femme qui est prête à être délivrée. Vous savez, beaucoup de femmes mariées, quand elles ont un problème, c'est leur belle famille. Quand elle vient à l'église, ma belle-mère, si elle vit encore, wow. Alléluia. Si le beau-père avec la belle-mère vit encore, oh, réunion de sorciers, c'est dans leur maison. Un jour, j'avais célébré un mariage et j'ai dit, le jour-là, la plus belle belle-mère, c'est celle qui est déjà morte.
une maman a dit que donc tu veux que. Mais c'était une façon de dire qu'en réalité, une belle-mère est appréciée par sa belle-fille ou son beau-fils quand elle n'est plus là. Ah, si ta mère était là, vraiment, elle est soumise. Quand tu me parles de ta mère, j'aurais bien voulu la rencontrer. C'est parce qu'elle n'est pas là. Si elle est vivante, ah! Je ne veux plus aller chez ta mère. Ta mère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le transfert des responsabilités. Proverbe 10, le verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, les enseignements. Celui qui est sage de cœur comprend, apprend de ce qui se passe autour de lui. Alléluia. Et quatrième élément qui rend les gens pauvres, n'est pas accepter les changements pour s'améliorer. Alléluia. On a toujours fait comme ça. C'est toujours comme ça qu'on fait. C'est toujours comme ça. Écoutez, même dans les sciences, chaque jour, tous ceux qui font dans les sciences doivent se, comment on appelle ça, recycler. Alléluia. Plusieurs fois, le docteur Amel est venu me voir, il me dit, apôtre, je vais aller en France, je vais aller au Maroc, je vais aller ici. Pourquoi? Parce qu'il va confronter ses connaissances aux nouvelles connaissances. Mais il n'y a que les chrétiens, les pentecôtistes en particulier, que rien ne change. Tu es Jésus. Lui ne change pas. Toi, tu es supposé changer. Et tu es supposé accepter certains changements dans ta vie. Il y a des choses que pour pouvoir monter plus haut, tu dois abandonner en bas. Alléluia. Tu dois abandonner. Si vous luttez contre le changement et refusez l'amélioration, vous vous invitez à la pauvreté dans tous les domaines. Regardez Jacob. Jacob devait entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Lorsqu'il arrive à Peniel, Dieu rentre en combat avec lui. Jacob devait mourir là-bas. Et Israël devait sortir de là. Parce que la prochaine saison ne pouvait pas. Yaoundé qui va se tenir avec plusieurs ministres de Dieu. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Vous voyez? Il y a certains niveaux de réveil qui ne deviendront jamais réalité tant que le corps de Christ n'aura pas accepté l'unité. Amen. L'unité telle qu'elle est illustrée par la tête de Christ. Alléluia. Par la tête de Christ. La tête de Christ en tant que Trinité démontre le caractère d'unité qui devrait être extrêmement imité par le corps de Christ. Jésus a prononcé la prière de l'unité qui révèle son désir sincère de voir l'Église évoluer dans l'unité. Même chacun de nous, nous devons évoluer dans cette unité. Voyez, à l'instar de la tête de Christ qui est une, il va dire dans Jean 17, 21 à 22, il va dire, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, est-ce que nous sommes un? Est-ce que tu es un avec ta sœur? Tu veux être la tête alors que chacun veut fonctionner de son côté. Alors que chacun veut avoir sa mentalité de son côté. Il n'y a qu'une seule mentalité, la mentalité du royaume. Ce n'est pas la mentalité de ton village. Ce n'est pas la mentalité des Babylonais. La mentalité des gens du sud, la mentalité des gens du littoral, la mentalité des gens de l'ouest, c'est une seule mentalité. Une seule mentalité. Mais dans l'Église, nous avons plusieurs mentalités. Et nous voulons entrer dans la dimension supérieure. Comment? Comment? Le docteur Kander m'appelle ça la scrabologie.
Alléluia. Il appelle ça la scrabologie. Il dit, lorsque vous voyez des crabes dans un même seau, quand l'un veut sortir, l'autre l'attrape, il dit, reviens ici. Tu veux partir où? Nous-mêmes, nous combattons. Nous combattons nous-mêmes. Nous combattons nous-mêmes. Comment tu combats ton frère? Lorsque tu as une inimitié avec ton frère, tu ne peux pas regarder ton frère dans les yeux. Quand tu le regardes dans les yeux, tu tournes la tête. Alléluia. Et tu dis que tu es chrétien. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi j'ai dit, même avec ceux avec qui je me suis séparé, si elle les voit en route, je les salue. S'ils ne répondent pas, j'ai fait ma part. Et je travaille pour que mon cœur soit en paix avec eux. Alléluia. Ils travaillent. Ça fait que quand je les vois, je suis content. Parce que c'est un enfant de Dieu. Je suis content de le voir. S'il n'est pas content de me voir. Mais tu vois ta soeur. Vos yeux s'échangent. Ton frère, vos yeux s'échangent. Tu passes à gauche, il passe à droite. Mais c'est les étrangers en route qui font ça. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui font ça. Nous sommes un seul corps, il n'y a pas deux corps. C'est un corps, un corps. Voici mon bien-aimé Duplex qui est ici. Pourquoi il est là? Parce qu'on est un corps. Si on n'était pas un corps, il ne serait pas ici. L'autre jour, on a reçu la bonne cause ici. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. L'autre jour, on a reçu le prophète So ici. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. L'autre jour, on a reçu le prophète de Dieu ici. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. L'autre jour, on a reçu Papa André ici. Papa César ici en haut. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Ces deux hommes ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Hein? Ces deux hommes ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ils se sont vus. Le jour-là, j'ai réuni les deux hommes ici sans que chacun ne sache qui venait. Il devait trouver l'autre. Quand ils m'ont regardé, ils ont dit que tu es fort. Tu m'as réuni avec mon frère sans me dire. Et ceux qui étaient en haut avec nous, lorsqu'ils priaient pour dédicacer la charpente, ont vu un miracle là-bas qui s'est passé. C'était d'une beauté incroyable. Ces autres hommes ont parlé en unité d'esprit. Papa André a donné le texte. Il a dit à Papa César, Papa, explique. Hey! Quand tu donnes la parole, tu ne donnes plus. Mais tu es rempli. Tu as montré que tu as la connaissance. Il dit, Papa, explique. Papa César dit, comme mon frère a dit, Il a expliqué. Et quand il a fini d'expliquer, il a dit, tu peux compléter. Il dit, oui, je complète ici. Et après, quand il fallait oindre les chaînaux, Papa André est venu, il s'est baissé, Papa César a posé les deux mains sur ses épaules. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont oint. Et j'étais là, dit que, oh Dieu, quel privilège que je voie ça. Des pères se mettent comme ça ensemble pour la gloire, pour que l'église se lève. Et c'est ce jour-là, c'est ce jour en haut qui a compris que ce bâtiment, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour l'église. Alléluia. C'est pour l'église. Et quand papa a fini de oindre, il s'est levé, il a dit à papa, prends aussi, parle aussi. Tu étais là, non, pas seulement. Il dit, prends aussi, parle aussi, Papa César, parle aussi. Papa César a pris aussi la bouteille en souriant. Il a dit, ok, comme mon frère a parlé, je déclare. Au nom de Jésus. Alléluia. C'était magnifique. Ça, c'est le réveil. L'unité. La dimension supérieure. C'est quoi la troisième clé? Troisième clé de la dimension supérieure, c'est l'unité. Bien aimé, quand tu es humble, tu n'as plus rien à défendre. C'est facile que tu aimes les autres. C'est facile que tu aimes les autres. C'est facile que tu acceptes tout le monde. Alléluia. Mais quand tu es plein de toi, oh, regardez cette bouteille, tu peux en rajouter. Il est plein, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux en rajouter? C'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont tellement pleins. Une sœur en Christ ne peut pas entrer. Un frère en Christ ne peut pas entrer. Elle rejette seulement tout le monde. Sors, 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 sors. Ce n'est pas l'esprit de rejet. C'est leur esprit qui rejette. Alléluia. Alors pour que ta sœur puisse avoir la place, il faut que tu te vides de toi-même. Pour que ton frère puisse avoir la place, il faut que tu te vides de toi-même. Lorsque tu arrêtes d'être le centre du monde, lorsque tu arrêtes de croire que tu es le plus beau, la plus belle, le plus intelligent, la plus intelligente, c'est là que tu vas commencer à voir le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Si nous sommes, nous ne sommes pas un, le monde ne croira jamais pleinement.
Afin de ramasser les autres prédicateurs qui ne sont pas dans leur ligne doctrinale. Aujourd'hui, nous assistons, on a aujourd'hui un grand moyen de l'évangile au Nigeria qui est en train de créer de nouvelles doctrines. Et c'est en train de créer un scandale dans l'Église. Il est allé jusqu'à dire récemment dans des prédications que Jésus n'est jamais sorti du banc des Marie. Allez, et la moto, vous ne pas la tête dans une prédication que notre frère est mouru en second père. Il fallait que vous cherchiez le psychiatre, non pas l'arrêter, on le soigne. Alléluia. Parce que comment la Bible dit que quelqu'un est sorti du sein de quelqu'un, tu dis que ce n'est pas que ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Les différences doctrinales. Et les catholiques que nous non Alléluia. L'Église évangélique dit qu'on ne peut pas demander les statues. C'est la foi dans le cœur. L'Église baptiste dit qu'on ne peut pas nous servir sur la tête, on plonge tout. L'Église va nous dire qu'on ne peut pas nous servir. Et chacun trouve que sa part est le mieux. Dieu connaît qui alors? Hein? Dieu, par tous ces endroits, la vie à ses enfants, de l'église, c'est Dieu a ses enfants. Il les connaît. Alléluia. Alors, il y avait ce problème dans l'église. C'est là qu'il y a le premier concile de Jérusalem. Il avait dit que il y avait une tendance. Ce qui disait, si vous êtes juif, vous devez vous conformer à ne pas manger des viandes, quoi. Donc, il suffit de viandes sacrifiées. Et l'autre, c'est un nom. Et l'évêque de Jérusalem, qui s'appelait Jacques, le petit frère de Jésus, dirait, même, mais pas. Alléluia. Même, mais pas même. Donc son frère consanguin, c'est lui qui était l'évêque de Jérusalem. Ce n'est pas l'apôtre Jacques qui écrit l'évangile de Jacques, c'est un autre Jacques qui était le petit frère de Jésus, avec Jude qui écrit l'évangile de Jude. C'était le petit frère de Jésus direct. Alléluia. Et la haute chape va réunir les deux tendances et il va dire une parole qui va rester céleste. Il va dire, au point où nous en sommes, donnons-nous la main d'association. Alors, il est temps de se donner la main vers ce sens. Pour pouvoir évoluer. Oui, tu adores différemment comme le mien. Mais est-ce que c'est conforme aux Écritures? D'accord? C'est la raison pour laquelle Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de Paul l'apôtre des non-Juifs. Chacun avait son secteur. Alors, pour pouvoir ramener ces deux entités à être un, tout cela doit faire de nous un seul peuple. Alléluia. Un seul peuple. La deuxième chose qui divise aujourd'hui l'Église, c'est la mauvaise conception. La mauvaise conception. Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 22, 29. Il dit, vous leur répondez. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. La mauvaise conception et ou la mauvaise interprétation des Écritures par les prédicateurs, les croyants, ont grandement contribué à la division du corps de Christ. Certains prédicateurs aujourd'hui conçoivent et interprètent mal les Écritures, puis avancent les arguments utiles pour encourager la division parmi les croyants. Aujourd'hui, regardez l'Église qu'on appelle Branham. Vous savez, le prophète Branham, c'était quelqu'un qui a donné sa vie réellement à Jésus. Si vous lisez le livre général de Robert Lindon, vous voyez cette histoire-là. Il retrace tout cela. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, cet homme de Dieu a commencé à enseigner beaucoup d'hérésies. Et Dieu l'a interpellé. Si vous écoutez les témoignages de Kenneth Hagin, Kenneth Hagin prend un témoignage par rapport à ça. Dieu parle à Kenneth Hagin d'aller voir Branham et lui dit, arrête d'enseigner. Il enseigne maintenant que Ésaü est la semence du serpent. Par exemple, je dis encore, par exemple. C'est-à-dire que quoi? Lorsque la Bible dit, et le serpent séduisit elle. Il dit, le mot séduisit veut dire ici avoir un rapport intime. Donc le serpent a eu un rapport intime avec la femme et ça a donné naissance à Ésaü. Comment dire que c'est pas les femmes. Caïen, merci. Alléluia. C'est la séquence du serpent. Alors, tu as repris cet homme et il est mort prématurément. Il avait un puissant don de guérison. Un jour, un homme est venu vers lui pour tester la grâce de guérison dans sa vie. Et cet homme est venu, alors qu'il priait pour des foules, cet homme est approché à côté de lui. Et l'homme lui a dit, tu souffres de quoi? Il dit, je souffre du cancer, du sang, de la poitrine. Et il regarde l'homme, il dit, tu n'as pas de cancer. Mais parce que tu as trompé Dieu, tu rentres avec le cancer maintenant. Et tu as mort. Et cet homme a instantanément été atteint du cancer et il est mort de ça. Alléluia. Donc, vous pouvez voir la dimension d'autorité que cet homme avait. Branham est l'un des premiers prédicateurs enseignés sur la divinité de Christ. Ce qui n'était pas encore connu à cette période-là. On en parlait, mais on n'en parlait pas clairement. Alléluia. Donc, vous pouvez voir combien Dieu utilisait cet homme, puissamment. Mais il a commencé à faire une mauvaise interprétation des Écritures pour soutenir qui est le dernier Adam. Il est le dernier Adam. Donc, Jésus, là, on a qu'à apprendre. Alléluia. Et aujourd'hui, dans les églises branhamistes, on enseigne ça aussi. Il est, Branham est le dernier Adam. Il faut prier au nom de Branham. Mais ça divise. Mauvaise interprétation. Et Branham est mort, il a laissé cela. Son fils a enseigné cela jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les Branhamites eux-mêmes se sont divisés en plusieurs morceaux. Il y a la version Papa Barouti, il y a la version Lycopodicienne. Alléluia. Lycopodicienne a sa version, Papa Barouti a sa version, donc chacun a sa version. Il y a même un autre là, qui pour lui maintenant, il a transformé ça en église primitive. Il a appelé ça l'église primitive. Dans son église, il dit, Branham n'est pas contre la polygamie. Lui, il vient d'épouser sa huitième femme. Au Congo, on a une tradition. Parce que la fille, apparemment, aurait tout ça. Dans ce moment, il est en justice. Pour prouver qu'elle a 18 ans. Alléluia. Et il dit qu'il n'a pas fini d'épouser. Il va épouser. Et tous les politiciens congolais qui aiment la polygamie et qui ont besoin qu'un pasteur célèbre, ils vont là-bas. Du célèbre, tu veux avoir une femme de célèbre.
Yes.
Les femmes sont folles. Je ne sais pas si elles sont folles, mais elles veulent en tout cas le mariage. Et puis c'est écrit. La Bible dit qu'au dernier moment, les femmes vont, certaines femmes viendront attraper, elles ont dit que même si c'est dans, la, dans le magasin, laisse-moi habiter. Donne-moi seulement ton nom. Donc nous sommes dans la saison où les femmes vont accepter même la 30e position.
Yes.
Alléluia. C'est chaud, ouais. Récemment, j'étais en Centrafrique avec Astrid et elle me racontait que le président, lui, il a la 8e première dame. Donc, 8 femmes, il est 8e première dame. Il est ancien dans une église baptiste. Baptiste! Ça veut dire même les prêtres ont dit que non, mon frère, tu le dépasses. Alléluia! Alléluia!
Amen.
Donc, vous voyez cette mauvaise conception. Et il y a une chose qui apporte la division de l'Église, l'orgueil personnel. Vous voyez, chaque ministre de voir il a la connaissance supérieure. Vous allez leur voir qu'il s'est donné des noms. Je ne sais pas, il y en a peut-être que leur nom soit été donné dans le monde spirituel par le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui se sont fait donner les noms. Siawan, Major One, je dis ça entre autres. Alléluia. Donc tu vas voir des titres assez ronflants comme ça, où chacun peut passer pour le numéro un dans la dimension prophétique. Donc en dehors de lui là. Non. Il y a un prophète qui est mort ici à Bonaventure. Ça, c'est au contraire de Dog et de Maman Marie. Lui, il disait qu'il était le type Joshua du Cameroun. Et que les papas n'étaient pas échoués. C'est lui qui doit faire le. Et lui, il disait que Dieu l'a moins pour la restauration des foyers et des familles. Sa propre famille était ici. Sa femme était dehors. Donc, ton notion de ma femme, quoi? Qu'est-ce que c'est? Jesus! Seigneur, alléluia. Alors, chaque fois qu'un homme prend cette position, il essaie d'être Dieu. Et Dieu comprend qu'il est un adversaire. Donc, à combattre. Et il va donc résister à toi. Alléluia.
Amen.
Et l'orgueil démesuré a fait que certains prédicateurs se sentent plus corrects que d'autres. Et ça lège le poids de pouvoir réprimander d'autres sur leur hôtel. Donc, mon hôtel n'est pas habilité à réprimander tel ou tel pasteur. Alléluia. Mon hôtel est habilité à prêcher l'évangile de la délivrance et du salut. Alléluia. Mais si j'ai quelque chose à te dire, je te prends à côté dans mon bureau, je te parle. Alléluia. Je te parle. Puis je n'en parle plus. Parce que c'est le Seigneur derrière. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, je n'en parle plus. Alléluia. 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 Puis j'ai dit une chose. L'orgueil. L'orgueil. Seigneur dit ne parlez plus. Ne parlez plus avec tant de hauteur. De hauteur. Comment tu peux te tenir ici? Comment tu peux t'arranger le poids des pasteurs? Tu parles n'importe comment aux autres. Ta période de faiblesse va arriver, tu vas faire comment? Ta période de tentation va arriver, qui va te couvrir? Tu as besoin de la prière des gens que tu insultes aujourd'hui. Paul lui-même disait, priez pour moi. priait pour moi. Il demandait la prière. Parce qu'il savait qu'il était faillible. Alors, quand tu t'arroges sur toi, tu te donnes l'impression d'être au-dessus des autres. Et ce n'est pas bien. C'est pourquoi je n'ai même pas le droit. Si toi, tu es venu ici en visite, tu es dans une autre église, je n'ai même pas le droit de poser des questions sur ton pasteur. Il enseigne comment, c'est quel genre de pasteur. Ah, je connais ton pasteur. Si j'ai même entendu l'histoire sur ton pasteur, je n'ai pas le droit de t'en parler. Alléluia. Ah, ton pasteur, c'est le type. Ah, tu sais pas qui chez les femmes. Tu veux pas là-bas. Tu es sa femme. Non, parce que. Non, si tu ne parles là-bas, tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Ouais. Nous avons eu ce problème dans le temps avec nos pères. Quand tu quittais la CNCI, tu partais à la vraie église, on considérait que tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus. Tu redonnais de nouveau ta vie à Jésus. Quand tu quittais la CNCI, quand tu quittais la vraie église, tu pouvais plein d'évangiles, on considérait que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu dois reprendre la vie. Tu dois te rebaptiser. Ça fait qu'il y avait des chrétiens qui sont rebaptisés 10 fois parce qu'ils ont fait 10 communautés. Aujourd'hui, le temps est plus ouvert. Il fut un temps où il n'y avait pas beaucoup. Il y avait 4 assemblées pentecôtistes dans tout le Cameroun. 4. Donc, si tu n'étais pas ici, tu étais forcément ici. Si tu n'étais pas ici, tu étais forcément ici. Si tu quittais les assemblées de Dieu, ACPC, yes. Tu partais à tel endroit, tu à la scène, tu es un frère de continuer à donner ta vie à Jésus. Vous voyez, les divisions qu'il y avait entre eux-mêmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec nous?
Amen.
Je prophétise dans ta vie. L'esprit d'unité au nom de Jésus. Amen. L'esprit d'unité au nom de Jésus. Amen. Pleinement restauré dans le corps de Christ et particulièrement dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quelques clés de la dimension supérieure. Je vous ai donné combien de clés? 3, n'est-ce pas? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Première clé, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est des choses qui vont vous le principe de l'obéissance, l'humilité et l'unité. Alléluia. Donc, je vais en ajouter. D'être en quatre. Alléluia. La quatrième, c'est ça, n'est-ce pas? La discipline. La discipline. Bien aimé. Appliquez la discipline dans tous les domaines de votre vie. Il y a des croyants qui sont spirituels, mais qui sont très indisciplinés dans leur mode de vie. Très indisciplinés. Alléluia. Tu es à l'église, tu es roulé. Ok, prends un frère ici. Dis-toi, ok, ma soeur, je vois que tu as du potentiel. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. Tu arrives dans son lieu de travail. Tu n'appelles plus patron, tu n'appelles frère. Tu es discipliné.
Amen.
Je ne dis pas amen, mais ça te conseille.
Amen.
Ce que j'essaie de dire, c'est de quoi? C'est que il y a des gens qui sont spirituellement élevés. Ils prient, ils sont vraiment au lit à l'église. Et quelqu'un à l'église décide de, parce qu'il voit son caractère, il voit ses manières de se comporter, il voit c'est le caractère. Parce que c'est la carapace. Alléluia. Il dit, viens travailler avec moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça qui va pouvoir faire des petites choses pour moi. Quand tu arrives là-bas, au lieu de l'appeler, ok, patron, ok, monsieur, bonjour. Et tu dis, mais frère, c'est comment? Je ne devais pas aller aujourd'hui, on a prêché un message. Alléluia. Ou bien, quand c'est l'un de tu parles. Tu sais que y a Alléluia. Ça, c'est de l'indiscipline.
voyez. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez prier et ne pas avoir des résultats. C'est dans la discipline que l'on s'en tient au principe essentiel pour la dimension supérieure. Voyez. En vertu de l'indiscipline, il y a des gens qui détestent les châtiments. Même dans la maison de Dieu, ils détestent être repris et corrigés lorsqu'ils ont tort. Donc, c'est ça l'indiscipline. L'indiscipline, c'est les gens aussi qui refusent d'être disciplinés. Alléluia. Hébreux 12, verset 5. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Une autre clé pour la dimension supérieure. Le jeûne et la prière. Bien aimé. Aucun homme spirituel ne manifeste sa spiritualité sans le vie des jeunes. Mais je sais que tu es une discussion avec lui. Et quand ils vont dans le bureau, ils disent que tu dis que tu es immense, tu es immense. Tu n'as pas pu le tracer. Et tu t'appelais Obama, parce que je connais un peu la zone là. Il n'a pas pu le tracer. Je lui ai dit non, frère, il faut vraiment me donner l'aide. Là, vous me voyez, si on sait même que je suis, si on va me tuer, vous connaissez pas mal les vies, pas sans. Bien, quand il m'a raconté l'histoire, ça n'a pas fait deux semaines. Le même gars a débarqué dans notre église. C'était un mec. J'étais là, normalement, bienvenue. À la fin, j'ai enseigné le mercredi. Il a levé la main de la porte. J'ai dit, mes frères. Il dit, oui, je vais témoigner ce que l'on me dit. Au départ, je dis, c'est un bon témoignage. Peut-être ce que j'ai dit là tellement touché. Ça va fortifier un peu les frères. Il dit vraiment, moi, je suis un musulman. Quand il a dit, je suis imam, j'ai dit, mais t'as dit, mais. Il a commencé à raconter. Et chaque fois qu'il racontait, t'avais un bing-bing dans ma tête, À la fin, il a dit vraiment, j'ai dit, frère, il faut raccourcir. On est dans la fin du service, donc les frères doivent partir. Il dit, non, vraiment, je suis très combattu. J'ai pris vraiment que vous m'aidez, pasteur, si vous pouvez me soutenir. Il dit, ok, tout le monde est venu pour m'a prié. Oh Dieu! Quand il a prié, il est allé à la porte attendre. Quand tout le monde se saluait, il est venu devant mon bureau. Il dit que, oh mon Dieu, je vais vous dire que non, à la fin, que ne soit pas ok. Je suis moi-même fatigué. Je dis que non, parce que là, je n'ai pas les moyens, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je dis que non, vas-y, Dieu est avec toi. Écoutez, aujourd'hui, les gens ont compris comment vous fonctionnez. Vous aimez les histoires sensationnelles. Je sors du monde des ténèbres, j'étais une reine. J'étais assis sur la chaise comme ça. Les gens buvaient, les présidents se disaient non, on a dit, on va chanter le jour à 2 heures de temps. Mais personne ne va tester son témoignage. Tester. Ça veut dire qu'il faut éprouver tout esprit. Il faut éprouver tout esprit. Parce qu'il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais témoignages. Il y en existe hein, plein. Mais à côté de ça, il y a aussi des fausses personnes qui profitent de ça pour avoir accès à notre compassion. Alléluia. Pour avoir accès. Et ils savent comment ils tuent. Chaque jour, ils vont venir te raconter. Après, il va commencer son histoire. Il va lancer 3 larmes. Quand 3 larmes, tu dis, courage. Il t'a eu. Tu traverses la rue, tu le vois de l'autre côté assis en train de manger le four, il y avait les 25 minutes. J'ai vu l'autre comme ça, hein, bien aimé. Un autre est venu à l'église en Europe comme ça, on lui a donné de l'aide. Il n'est pas allé très loin. Hein. Quand on est descendu, il était assis au bail du verre. Donc, vous devez avoir beaucoup de discernement. Alléluia. Discernement. Le travail acharné. Et un dernier clé, c'est la bonne association. Et bien aimé, la bonne association. La Bible dit au livre de 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Bien aimé, si vous êtes entouré d'une compagnie qui n'est pas bonne, il n'y a aucune chance que vous progressiez dans la vie. Sauf que vous devez choisir le type de compagnie avec lequel vous devez marcher. David dit que nous ne devons pas marcher avec trois types de compagnies. Il dit la compagnie des moqueurs, il dit ensuite la compagnie des méchants, et en troisième lieu, la compagnie des pécheurs. Trois compagnies qu'il faut éviter. Somme 1. Alléluia. Somme 1. Il faut éviter ça. Donc, il y a des compagnies comme ça qui affectent également votre niveau d'élévation dans la vie. C'est votre association qui détermine la structure de votre vie. Les personnes avec lesquelles vous communiquez par association peuvent soit vous aider à vous élever vers des dimensions supérieures, soit vous bloquer ou soit vous ramener vers le bas. Alléluia. C'est pourquoi vous devez choisir. Vous avez l'obligation d'aimer tout le monde, mais vous n'avez pas l'obligation d'avoir tous des amis. Alléluia. Vous devez choisir. L'amitié est un choix. L'amitié est un choix. Ça ne s'impose pas. Si quelqu'un n'est pas associé au niveau que tu vas atteindre dans la vie, dis frère, pas de l'autre côté. Comme Abraham a dit à Lot, prends à gauche, je prends à droite. Prends à droite, je prends à gauche. Chacun, on ne veut pas la paix. On veut la paix, nous deux. Alléluia. 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 Très bien. Voilà, Dieu. Alors, je termine avec ça. Nous parlons de dimension supérieure. Alléluia. Je termine avec ça. Mais pour qui est cette dimension supérieure? Cette dimension supérieure a plusieurs composantes. La première composante que vous devez travailler dessus pour que cette dimension supérieure soit authentique, vous devez avoir une intelligence spirituelle. Amen. Une intelligence spirituelle. Paul dit, et qui illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Vous devez avoir cette intelligence spirituelle, cette illumination spirituelle. Alléluia. Cette révélation spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Deuxième chose, deuxième composante, vous devez avoir l'intelligence académique. Oui, mes bien-aimés. Oui. Oui. L'intelligence académique est très, très importante. La vie n'est pas faite d'hypothèses de vie. Il faut des connaissances solides et du professionnalisme. Regardez les autres Victor. Ils sont devenus grands parce qu'ils se sont associés à une intelligence académique. Alléluia. Sinon, leur nom ne devait pas suivre à leur richesse. Ils devaient mourir, les étudiants aussi. L'intelligence académique. Alors, tu peux t'associer avec des personnes qui ont cette intelligence académique pour t'aider à avancer si ton cerveau n'est plus prêt à récupérer. Alléluia. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Et une autre, l'intelligence financière. Bien aimé. On ne devient pas riche sans savoir comment gagner de l'argent. Alléluia. On ne devient pas riche sans savoir comment gagner de l'argent. Ne sous-estimez jamais la nécessité de l'intelligence financière. Sinon, vous serez financièrement sans défense. Alléluia. Salomon dit que l'argent est une défense. L'argent est une défense. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Mais que le manque d'argent est une infraction, c'est un péché. Et Salomon raconte l'histoire d'une ville qui était envahie par leurs ennemis. Alléluia. Et personne ne pouvait délivrer cette ville. Et la Bible dit dans ce village, il y avait un homme sage et pauvre. Homme sage et pauvre. Qui délivra la ville par sa sagesse, mais lorsqu'il fallait récompenser, on l'a oublié parce qu'il était pauvre. Alléluia. On l'a oublié pourquoi? Il était pauvre. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. L'intelligence financière. L'intelligence financière. Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Il ne veut donc pas qu'on soit financièrement stupide et appauvri. Alléluia. Somme 35, le verset 37, le verset 27, et en dernier lieu, l'intelligence de l'alliance. Amen. l'intelligence de l'alliance. Il s'agit de comprendre et de découvrir l'histoire de l'alliance à long terme de votre famille et de votre ville natale. Il y a des gens qui sont soumis à des limitations, il y a des batailles à cause de certains alliances cachées que leurs parents ont contractées il y a des années, mais dont ils ne sont pas conscients. Et une alliance est un accord contractuel spirituel entre deux parties concernant une chose. Donc, quelles sont les alliances qui gouvernent ta vie? Si tu n'es pas conscient des alliances qui gouvernent ta vie, il y a des limitations que tu vas vivre. Alléluia. Regardez le livre de 1 Chroniques, chapitre 4. Jabez, la Bible de Jabez était plus considéré que ses frères. Il était plus doué, plus talentueux que ses frères. Mais il vivait dans la douleur, dans le pro. Jusqu'à ce qu'il commença à prier. Il a compris que son homme avait un problème. Et il a prié et Dieu l'exauça. Alléluia. Alors, quels sont les pesanteurs? Moi, j'appelle les alliances là des pesanteurs qui t'empêchent de t'élever en haut. Alors que Dieu a dit que tu es la tête, tu n'arrives pas à être la tête. Tu restes toujours la queue. Alors que Dieu t'a destiné pour la hauteur, tu es toujours dans les bassesses. Je prie pour toi ce soir. Que ta vie soit un impact au nom de Jésus. Que ta vie ait un impact au nom de Jésus. Toute pesanteur qui t'empêchait de t'élever, toute pesanteur qui bloquait ton élévation, est brisée au nom de Jésus. 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 Je déclare une nouvelle saison d'élévation dans ta vie. Je déclare une saison de grâce dans ta vie. Je déclare une saison de faveur dans ta vie. Je déclare une saison d'élévation dans ta vie. Comme a dit le Seigneur, alors que tu obéis à ses instructions, je déclare que tu sois la tête. Je déclare que tu sois en haut. Je déclare que la bassesse ne soit plus ton partage. Au nom de Jésus, que tu sors de la poussière et que tu t'assoies à la table des rois. Que tu sors de l'indigence et que tu t'assoies à la table des grands. Au nom de Jésus, que l'Éternel te distingue.